Très content de vous retrouver après le week-end dernier où nous étions avec Yvonne, mon épouse, et les Caplans au Synode en Haute-Loire. Et justement, sur la route du Synode, nous avons croisé au moins 300 motos par groupe de 10-15 motos, n'est-ce pas, Joël? On se souvient de ces motos, hein? Et qui étaient sortis en balade, là, avec des grosses motos, hein, et puis des grands barbus sur la moto. Et puis aussi 52 chevaux, au moins 52 chevaux, une dizaine d'amis 8, une vingtaine de Dianes. Donc il semble qu'il y avait une concentration de passionnés de voitures Citroën. Et puis on avait aussi des voitures de collection, une série de 10 Porsche 911. Et la cerise sur le gâteau, une, et là c'est marqué, enfin vous l'avez à l'écran, c'est quoi ça? C'est une Jaguar, ça c'est Michel Caplan qui me l'a dit, type E, et c'est la voiture de Spirou. Alors là c'est magnifique. On s'est dit que le week-end de l'Ascension était manifestement le week-end des passionnés. Les passionnés de la moto, les passionnés de Citroën ou passionnés de voitures de collection, des passionnés de moteurs en fait. Et au retour, je me suis fait la réflexion, et je l'ai partagé avec les occupants endormis de la voiture, il n'y a pas eu beaucoup de répondants. Donc c'est intéressant ce besoin que les gens avaient de se passionner pour quelque chose, d'avoir quelque chose qui les motivait dans la vie. Et j'imaginais les gens avec la deux chevaux, le temps qu'ils passaient dans leur garage à bichonner leur voiture, ou sur Internet à chercher des pièces de collection, des pièces de rechange ou des accessoires, ou sur leur portable à prendre rendez-vous avec les autres passionnés pour se rencontrer et partager ensemble leur passion de la deux chevaux. C'est également amusant de voir que le mot moteur et motivé, comme l'a dit Yvonne, viennent de la même racine. Motivé par les moteurs, c'est presque un pléonasme. C'est fou ce besoin quasi universel d'avoir un moteur pour la vie, d'avoir une raison de vivre. Et c'est Albert Camus qui disait, je crois, que l'homme ne pouvait pas vivre sans raison de vivre. Et la question qui est aussi le titre de ce speech de ce matin est celle du choix du moteur. Quel moteur pour ma vie? Parce que ce moteur peut prendre les formes les plus variées ou les cylindrées les plus variées. Madonna, par exemple, dans une de ses biographies, déclarait « Le moteur de ma vie est cette peur terrible d'être médiocre ». Le moteur de sa vie ou de la vie de la Material Girl, ce n'est pas l'argent, c'est pas la joie de danser, c'est pas la joie de faire partie du showbiz, mais c'est la peur de ne pas être à la hauteur. C'est ça qui la mobilise, c'est ça qui la motive. Et elle ajoute, même si je suis devenu quelqu'un, je dois encore prouver que je suis quelqu'un. Prouver qu'elle est quelqu'un. C'est le moteur de la vie de Madonna. Et dans un autre registre, celui du cinéma, j'ai été vraiment surpris de voir cette citation de Sidney Pollack. Vous savez, celui qui a fait Tootsie ou Jeremiah Johnson ou Out of Africa. Des super films quand même. Et un journaliste qui lui demandait pourquoi... Sidney Pollack, pourquoi toi, Sidney Pollack, tu n'arrivais pas à te reposer, à jouir de la vie après avoir réalisé de si beaux films et de si belles choses dans ta vie? Il répondait, si j'arrête le cinéma, je ne peux plus justifier mon existence. À chaque fois que je termine un film, j'ai le sentiment d'avoir accompli quelque chose que j'étais supposé accomplir et que j'ai donc le droit de vivre encore une année de plus. Le moteur de Sidney Pollack, de la vie de Sidney Pollack, c'est de s'entendre dire justement « moteur » quand la scène est prête à être tournée. Quel est le moteur de votre vie? Alors la question se pose pour chacun d'entre nous, pourquoi sommes-nous sur Terre? Pourquoi? Quelle est notre raison de vivre? Quel est le moteur de notre existence? J'aime cette image d'un groupe d'hommes en train de discuter quel véhicule choisir. Pour la vie, quel moteur? Ben non, pas quel moteur, c'est toutes des voitures à pédales, comme le signalait aussi Yvonne tout à l'heure. Quel est le moteur de la vie? On peut recenser 6 moteurs principaux pour l'homme et la femme du XXIe siècle. Ce sont des moteurs profonds, hein, parfois cachés, parfois inconscients, qui, comme dans la soute des grands bateaux, ils sont au fond de la cale, personne ne les voit, mais ce sont eux qui font bouger le navire. On va les énumérer. Et peut-être que vous allez vous reconnaître dans l'un ou l'autre moteur. Il y a le moteur de la colère. C'est ceux qui ressassent sans cesse le mal qu'on leur a fait sans jamais tourner la page et qui font par colère du mal aux autres et qui s'en font à eux-mêmes. Dans la Bible, il y a une personne qui est mue, M-U-E, par la colère, et c'est Jézabel. Ne nommez jamais votre fille Jézabel, parce que ce n'est pas un bon exemple. Toute sa vie est traversée par la colère, une colère haineuse, elle est violente, et elle semble se nourrir de cette colère. C'est une haine qui l'a fait vivre. « J'ai la haine », disait Jézabel. Et même les plus grands prophètes, Élie, qui avait réalisé pas mal de choses, a peur de Jézabel et fuit Jézabel, parce que Jézabel est une femme en colère toute sa vie. Elle n'a jamais décoléré. La colère comme un moteur. La culpabilité comme un moteur. Ceux qui, à cause d'une éducation trop stricte, mal équilibrée, ont toujours l'impression d'avoir mal fait, ou en tout cas pas assez bien, ou qui ont carrément mal fait mais qui ne trouvent pas de pardon et qui se punissent eux-mêmes et qui en quelque sorte sabotent leur propre vie, leur succès personnel. Une mauvaise culpabilité qui sépare de Dieu, comme Caïn qui a tué son frère, on le sait, et qui s'enfuit, le coupable ou celui qui se sent coupable, toujours en fuite, qui se met à errer sur la terre portant le poids de sa culpabilité. La culpabilité comme moteur de la vie. Troisième moteur, la peur. La peur, on en a déjà parlé avec Madonna, la peur comme étant souvent, très souvent, peut-être pour vous ce matin, le grand motif de la vie. Alors il y a les peureux qui font tout pour vaincre leur peur et qui se lancent des défis incroyables, qu'ils n'arrivent pas d'ailleurs à atteindre. Et il y a d'autres peureux qui jouent la carte de la sécurité et du statu quo, comme Pilate. Pilate, qui n'est pas convaincu de la culpabilité de Jésus, mais qui, par crainte des Juifs, nous dit le texte, le récit, par peur des Juifs, s'en lave les mains. La peur qui nous fait nous laver les mains de la vie. La peur qui mène la danse, une danse funèbre. Et puis, autre moteur courant, le quatrième, la soif de posséder. Alors c'est un peu le moteur très classique, on n'a presque plus envie d'en parler tellement il est courant, mais c'est vrai, il est classique, mais il fonctionne encore. Il fait bouger des tas de véhicules parce qu'il y a cette pensée en nous que notre valeur dépend de notre capacité à posséder. Une pensée qui est très courte intellectuellement, mais qui a la vie longue. Et l'exemple biblique, c'est ce jeune homme riche qui voudrait rentrer dans le royaume, mais qui, parce qu'il a de nombreux biens et qu'il y est attaché, s'en va et refuse l'appel du Christ. Il est incapable de lâcher sa sécurité matérielle ou que lui donne le matériel. Et la Bible nous dit qu'il s'en alla tout triste parce que le matérialisme rend triste et surtout rend seul. Il y a un autre moteur, le besoin d'être approuvé, ou le besoin de reconnaissance. Là aussi, un moteur très classique, qui est bien rodé, et qui commence dès l'enfance, on veut plaire à papa et à maman, et puis au professeur, et puis au patron, il faut se faire bien voir par tout le monde. En anglais, on dit ça, on les appelle les people pleasers, ceux qui veulent plaire à tout le monde. Et on a un exemple dans la Bible, Hérode, le roi des Juifs à l'époque de Jésus, mais en même temps une marionnette qui cherche à être aimée à la fois des Juifs et des Romains, qui veut plaire à la foule, qui défend Jean-Baptiste, mais qui veut plaire à Salomé, qui demande la tête de Jean-Baptiste. Il veut plaire à tout le monde, et quand on veut plaire à tout le monde, on se retrouve dans des impasses, dans des endroits où on ne voulait pas aller, où on ne voulait pas être. Il n'a pas de colonne vertébrale, Hérode, mais il a un moteur, le besoin de reconnaissance, d'être approuvé par tout le monde. Et puis, dernier moteur, très classique aussi, et j'aime bien cet homme de 40-45 ans dans une petite voiture à pédales, la recherche de l'accomplissement personnel. Et on vit aujourd'hui dans une culture de l'accomplissement personnel. le moteur de notre société, c'est l'accomplissement personnel. Et une psychologue spécialiste des jeunes cadres dynamiques parlait de l'accomplissement personnel comme d'un alcool que l'on peut consommer sans modération, comme une véritable addiction. La course à l'accomplissement personnel, une addiction des temps modernes. Et on observe la même séquence chez ces jeunes cadres dynamiques en recherche d'accomplissement personnel. On a un projet à réaliser, on le fait, on réussit, on est félicité par les collègues ou par le groupe, peut-être même par le patron, et on adore le sentiment qui accompagne cet accomplissement, le fait d'être reconnu à sa juste valeur ou d'être valorisé justement. Et on déteste après le retour à la normale. Et donc on va se lancer dans un nouveau projet pour s'accomplir encore plus. Et la course est parti avec ce moteur de l'accomplissement personnel. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes reconnu dans les six... dans les six moteurs, la colère, la culpabilité, la peur, la soif de posséder, le besoin d'être approuvé, l'accomplissement personnel. Peut-être que vous avez un moteur hybride, multi-hybride, qui marche un petit peu à tout. Et tous ces moteurs nous donnent l'impression d'exister, et même parfois nous donnent le sentiment ou l'impression d'une certaine sécurité. Et c'est d'ailleurs pourquoi on les recherche, parce qu'on a tous besoin de justifier sa vie par quelque chose, comme le disait Sidney Pollack, le cinéma justifie mon existence. Et on a tous besoin d'un moteur qui nous donne cette impression d'exister, mais le problème avec ces moteurs-là, c'est qu'il se révèle assez décevant à long terme. Alors ce n'est pas pour noircir le tableau, mais je suis tombé sur ce témoignage d'un homme, d'un écrivain américain qui s'appelle David Foster Wallace, qui écrit ceci 3 ans avant de se donner la mort à 48 ans, dans un recueil en français qui s'intitule, c'est traduit de l'anglais, « C'est de l'eau ». Quelques pensées exprimées en une occasion significative pour vivre sa vie avec compassion, c'est le titre. Et il parle de ces choses que l'on vénère à l'endroit, qu'on adore, ces choses qu'on adore, ces choses à qui on voue un culte personnel, un culte passionné, de ces moteurs intérieurs que l'on met en marche et pour vivre, mais il parle de leur effet pervers sur l'individu. Le retour de manivelle, vous savez, à l'époque, on lançait le moteur avec une manivelle et il fallait craindre le retour de manivelle. Et il a prononcé ce discours lors d'une remise de diplôme dans une université en 2005. Tout le monde vénère quelque chose. On peut seulement choisir ce qu'on veut vénérer. Et une excellente raison de choisir de vénérer une sorte de Dieu, ou Dieu lui-même, ou quelque chose de spirituel, est que pratiquement tout ce que vous pourrez vénérer d'autre vous dévorera vivant. Si vous vénérez l'argent et les objets, si c'est là que vous puisiez le sens de la vie, vous n'en aurez jamais assez. Vous n'aurez jamais le sentiment d'en avoir assez. Vénérez votre corps, votre beauté, votre sex appeal, et vous vous sentirez toujours moche. Et quand le temps et l'âge pointeront le bout de leur nez, vous souffrirez 1 million de morts afin qu'ils ne finissent par vous enterrer. Vénérez le pouvoir et vous vous sentirez faible. Vous aurez peur et vous aurez besoin d'accroître votre pouvoir sur les autres pour éloigner la peur. Vénérez votre intellect, l'impression d'intelligence que vous vous donnez, et vous finirez par vous sentir idiot. Des imposteurs, toujours à deux doigts d'être découverts. Et vous savez, conclut-il, ce qu'il y a d'insidieux dans ces différents cultes, c'est qu'ils sont inconscients. Ce sont des configurations par défaut. David Foster Wallace. Et j'ai trouvé ce témoignage un peu triste, surtout quand on connaît l'issue, mais tellement juste. Des configurations par défaut. Des moteurs dans la vie qui nous enferment et nous déçoivent avec le temps. Avec une question aussi qui se pose, comment s'en sortir de ces configurations par défaut qui sont là à défaut d'autre chose? Eh bien, il y a cette histoire dans la Bible que vous avez vue et entendue tout à l'heure, cette histoire de Naaman qui date un peu puisqu'elle est dans l'Ancien Testament, on va dire. 2800 ans, à peu près. Et ce qui est frappant dans cette histoire, c'est l'histoire que j'ai appelée l'histoire de Dead Man Walking, vous savez, l'histoire de ces condamnés à mort qui marchent dans le couloir de la mort, Dead Man Walking. Et ce qui est intéressant de voir dans cette histoire, et le récit l'a bien dit tout à l'heure, c'est que c'est l'histoire d'un amant, d'un grand homme. Et dans le texte en hébreu, il y a marqué Ish Gadol, Ish l'homme, Gadol, grand. Qui était grand de réputation, homme de valeur, qui avait la faveur du roi de Syrie, qui avait accompli pour la Syrie des victoires militaires, un homme dont le moteur est manifestement l'accomplissement de soi, la carrière. Mais il y a un mais, il y a toujours un mais dans la vie, quel que soit le moteur. Et le mais, c'est qu'il était lépreux. Et le narrateur nous l'annonce dès le premier verset. Et toute l'importance qu'il pouvait avoir dans la société, tout son accomplissement personnel ne changeait en rien au mal qui le rongeait de l'intérieur et qui se voyait à l'extérieur. La lèpre, à l'époque incurable et insoignable, le type de maladie qui nous amène tout doucement vers l'isolement d'abord et ensuite vers la mort. Il est encore bien, Naaman, à l'extérieur, mais c'est une question de temps, il est déjà quelque part hors jeu, hors course. Il est grand, Naaman, mais il est lépreux. Et il semble qu'il n'y ait aucun espoir, qu'il n'y ait aucun espoir de salut ou de guérison. Mais comme on le dit souvent, ou comme souvent, il vient de là où on ne s'y attend pas. Il vient d'une petite fille qui est dans la maison de Naaman, qui doit avoir 12 ou 13 ans, et qui va dire « Je connais quelqu'un qui peut le sauver ». Et contre toute attente, la femme de Naaman en parle à son mari. Et contre toute attente, Naaman en parle au roi de Syrie. Et contre toute attente, le roi de Syrie donne son accord pour que son homme de valeur voyage vers la Samarie. C'est dire que tout le monde veut que Ish Gadol Naaman reste là, parce qu'on profite toujours des Ish Gadol, des grands hommes ou des grands hommes. Mais notre homme va faire le voyage, mais il n'est pas au bout de ses peines. Parce que pour guérir intérieurement, il va falloir qu'il se débarrasse de cette configuration par défaut qui lui colle à la peau. Il va falloir qu'il change de regard sur les autres. Comment ne pas se laisser piéger par sa configuration par défaut, par sa recherche de l'accomplissement de soi. Changer de regard sur la vie. Et on va le voir dans le récit, Naaman va progressivement changer sa manière de penser la vie. Et au début, il fait comme il a toujours fait, il est général en chef, il est proche du pouvoir, et il va partir en guérison comme on part en mission. Il va amener, et on l'a dit tout à l'heure, 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et 10 vêtements de rechange. Pourquoi faire les vêtements de rechange? Parce que c'est très utile, un vêtement propre dans le monde diplomatique, parce que Naaman va d'abord se diriger vers le roi d'Israël, alors que la petite fille a parlé d'un prophète. Mais Naaman est pris dans sa configuration intérieure et par défaut, il est pris dans son monde des grands et des grands de ce monde et il va voir le roi d'Israël. Mais le roi d'Israël, et on l'a vu tout à l'heure, il va s'écrier « Mais suis-je Dieu, moi, pour guérir les gens ?» Et là, le roi d'Israël, sans le savoir, met le doigt sur le problème de Naaman. Parce que Naaman, avec ses kilos d'or et ses vêtements de rechange, pense pouvoir acheter un sens à sa vie. Pense pouvoir acheter un moteur à sa vie. Pense pouvoir acheter ce qui pourrait justifier sa vie. Mais Naaman se trompe de porte et Naaman cherche un Dieu avec lequel on peut composer, que l'on peut même acheter, un Dieu que l'on mérite, un Dieu qui est prévisible. Mais Dieu n'est pas un Dieu prévisible. Prévisible, il est le Dieu de la grâce et il faut que Naaman change de vision des choses. Et ça fait penser à Jésus qui s'adresse à tous les Naamans du monde. Hier et aujourd'hui, qui viennent avec leur gros moteur et qui tirent sur la poignée de gaz ou qui appuient sur la pédale de gaz pour faire vrombir leur moteur et rouler en même temps les mécaniques. Et Jésus va leur dire « À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ou s'il perd sa vie ?» Et la suite est intéressante. Il dit « Ah, voilà. » Et qui peut la lui racheter? Qui peut acheter sa vie? Oui, comment la racheter? Quelques vêtements de rechange? Quelques kilos d'or, quelques moteurs vrombissants. Mais Dieu, qui s'est parlé à tous les Naaman du monde en panne de moteur, va lui parler et va lui parler à travers des personnes que Naaman n'écoute pas d'habitude. Et c'est ça un point saillant du récit, c'est que Dieu va parler à travers des personnes que l'on n'écoute pas d'habitude, des serviteurs. Et donc Naaman, pour finir, arrive jusqu'à la maison du prophète. Il est là avec ses chevaux et ses chars, mais Élisée ne vient pas. C'est un serviteur qui vient vers lui de la part du prophète et qui lui dit « Va et lave-toi cette fois dans le Jourdain ». Et là, Naaman pète un câble. Et le récit nous dit deux fois qu'il se met en colère. Et il dit « C'est quoi cette histoire ? On me prend pour qui ici ? Je suis Naaman, un Ish-Gadol, un homme important. J'ai accompli un certain nombre de choses significatives dans cette vie. Et je suis traité ici comme un moins que rien. Le prophète qui ne sort même pas me voir. Et c'est un serviteur minable qui me demande de me baigner dans cette petite rivière minable, alors que j'ai toute la Syrie pour me baigner tranquille. Et il est furieux. Pourquoi ? Parce que toute sa vision du monde et de lui dans ce monde est remise en question. Et il ne veut pas lâcher prise sur ce qui a fait sa raison de vivre pendant toutes ces années. Et Naaman a du mal à comprendre que Dieu n'est pas un phénomène culturel que l'on peut contrôler, mais un Dieu à la fois libre et rempli d'amour, et que ce Dieu, quand il entre en relation avec les êtres humains, opère sur un principe révolutionnaire, nouveau, la grâce, la gratuité. Mais ça en fait beaucoup pour un seul homme, parce que ça va à l'encontre de sa culture de l'accomplissement personnel. Il pensait qu'on allait lui demander quelque chose de grand, quelque chose à sa mesure, quelque chose à sa portée, puisqu'il est lui-même un grand homme, du genre d'aller trouver le trésor de Rakam le Rouge ou encore de partir à la recherche de l'arche perdue. Mais le message du serviteur d'Élisée est une insulte à son intelligence et à sa culture. Barboter dans le Jourdain, ça, tout le monde peut le faire. Et c'est exactement le problème. C'est exactement ça la grâce, tout le monde peut le faire. Mais tant que Naaman ne comprendra pas que Dieu est un Dieu de grâce et que le salut guérison ne peut pas être mérité mais seulement reçu, il restera prisonnier de ses configurations intérieures. Mais il y a encore des serviteurs qui vont intervenir et qui vont dire Maître, si ce prophète avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas ? A fortiori, devrais-tu faire ce qu'il t'a dit puisque c'est facile ? Et ça, c'est une logique de serviteur, de gens humbles. Et c'est une bonne logique, malgré tout. Tu n'as rien à perdre à faire quelque chose de facile, perdre juste un peu peut-être de ton amour propre, qui semble relativement important chez toi. Perdre un chouïa de tes certitudes, sur toi-même surtout. Et Naaman va écouter ses serviteurs comme il a écouté celui d'Élisée, comme il a écouté la petite servante de sa femme. Et de ce contact répété avec les plus humbles que lui, ces petits gens qu'il n'écoute jamais auparavant, ça va le mener vers le Jourdain. Il va s'y baigner cette fois et être guéri de sa lèpre. Et il va être sauvé de ce mal qui allait le séparer de la vie, la vraie. Et il ressort de l'eau avec une peau de bébé, changé à l'extérieur, mais aussi, et peut-être surtout, changé à l'intérieur. Et ça me rappelle le film « Oh Brother » avec... des frères Cohen avec le beau George Clooney et ses deux acolytes, beaucoup moins beaux. Et l'un d'eux se fait baptiser dans le Mississippi et déclare en sortant, avec un sourire en banane et des dents approximatives, « I'm saved !» Un grand moment de cinéma, un grand moment pour Naaman qui sort de l'eau. Il est sauvé lui aussi de sa lèpre et de sa configuration défectueuse du salut par l'accomplissement personnel. Et il faut mettre l'accent sur le rôle qu'ont eu les serviteurs, et en particulier la petite servante qui a dit à sa maîtresse, « Je connais quelqu'un qui pourrait sauver Naaman ». Il faut se rendre compte que cette petite fille esclave, les parents ont certainement été tués par une razzia syrienne en Israël, et que certainement ce général en chef, Naaman, est responsable de ces razzias. Elle aurait pu se dire, la petite fille, je connais quelqu'un qui pourrait le sauver, mais je ne vais pas lui dire. Je vais juste attendre qu'il parte petit bout par petit bout. Je vais juste lui faire payer ses crimes. Et j'irai danser sur sa tombe. Mais cette petite fille va dire, je connais quelqu'un qui peut le guérir. Parce qu'on ne sait pas pourquoi elle est pleine de compassion pour sa grâce, qu'elle aussi, cette petite servante, a été touchée par la grâce, qu'elle est prête, en quelque sorte, à absorber la dette qu'il a envers elle et devient, pour cet homme, un agent de guérison, on pourrait dire de rédemption. Et dans la Bible, on parle d'un autre serviteur, un serviteur qui absorbe la dette à la place d'autres. Et dans le prophète Ésaïe, écrit 6 siècles avant la naissance de Jésus, il y a des chapitres qui s'intitulent « Les chants du serviteur ». Ça parle de Jésus. Jésus, le serviteur. Nous l'avons méprisé. Et pourtant, c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Jésus a absorbé en lui la dette que nous avions à son égard. Et le Nouveau Testament en parle aussi, en parlant justement de Jésus. Il a pris sur lui la condition de serviteur, il est devenu obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Écoutez la voix du serviteur. Et ce que Jésus a fait à la croix, c'est ce que la petite servante a fait pour Naaman. Il a absorbé notre dette par amour, par compassion pour nous. Nous, les hommes et les femmes qui s'agitent avec leur moteur sans aucune puissance, mais qui portent en eux un problème qui les ronge de l'intérieur. Alors, chers amis, je reviens à la question du début. À quoi marchez-vous? Quel est le moteur de votre vie? Peut-être vous vous êtes reconnu en Naaman, ou en Madonna, ou en Sidney Pollack, ou dans les 6 moteurs possibles. À quoi marchons-nous? La Bible nous dit dans Romains 12 de ne pas nous conformer aux configurations par défaut du siècle présent, de ne pas nous conformer à tous ces moteurs de ce monde, mais de laisser Dieu nous transformer en nous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez comprendre quelle est la volonté de Dieu pour vous, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est agréable. Et ce monde ou cette société qui nous propose tous les moteurs possibles, toutes les cylindrées possibles pour justifier la vie, eh bien Dieu, dans sa parole, nous invite à ne pas nous laisser tromper ou nous laisser divertir, comme le disait le philosophe Pascal, mais d'être renouvelés dans notre intelligence pour comprendre quelle est la volonté de Dieu, pour discerner quel est l'objectif de Dieu pour nous, quel est le projet de Dieu pour nous. Et Paul, toujours bien inspiré, ajoute que ce projet, c'est ce qui se fait de mieux pour nous, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ce qui est bon, agréable et parfait, c'est d'entrer dans une relation vivifiante et libératrice avec le Dieu de la vie et de la grâce. De pouvoir lâcher prise par rapport à tous ces petits moteurs poussifs et de faire confiance en Dieu, à Dieu, pour le reste de la route à faire. Lui dire, en quelque sorte, une fois pour toutes, mais aussi chaque fois qu'il est nécessaire, parce qu'on a tendance à revenir à ces moteurs, à ces configurations par défaut, de lui dire, c'est toi le moteur de ma vie. Je veux vivre de toi, par toi et pour toi. Parce que je sais que tu as les paroles de la vie éternelle, comme on l'a lu tout à l'heure. Parce que je sais avec toi où je vais. Et que ta grâce m'accompagne. Que ton pardon toujours renouvelé, et ton amour m'accompagne. Tu es le moteur de ma vie. Et peut-être nous devons le redire. Ou peut-être, si on ne l'a jamais dit, le dire. Certains qui tournent autour, qui viennent ici à l'église, qui participent, mais qui sont toujours en train de marcher sur des moteurs de configuration par défaut. Peut-être aujourd'hui de se dire, je veux vivre pour toi maintenant. Et à nous qui sommes chrétiens depuis un petit peu de temps, et qui nous laissons parfois conformer au moteur du siècle présent, de renouveler notre désir de marcher par lui et rien qu'avec lui. Je veux vivre pour lui parce que je sais qu'il a un projet pour moi, comme il le dit aux exilés qui sont à Babylone, dans Jérémie 29, « Car je connais les projets que j'ai formés en votre faveur, dit l'Éternel, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir fait d'espérance. » Un appel à rentrer dans le projet de Dieu pour chacun d'entre nous et nous tous ensemble. Est-ce qu'il n'est pas le temps de le faire? Est-ce que je peux continuer longtemps à rouler juste pour moi dans ma voiture à pédale? L'embrayage de notre voiture, et je crois que ce sont les autres conducteurs qui sont responsables de cela, est en mauvais état. Mon embrayage est au bout. Je crois que j'en suis responsable. Et mon garagiste m'a dit, il y a 2 mois, que j'en aurais pour... Je peux rouler comme ça 1 mois ou 10 mois. J'en suis au 3e mois. Et j'espère tenir le plus longtemps possible. Mais il m'a dit que, quand je voulais faire réparer, que si je voulais changer mon embrayage, il faudrait le prévenir parce que il faut prévoir le temps nécessaire parce qu'il allait, et j'ai adoré l'expression, il fallait déposer le moteur. Et j'avais jamais entendu cette expression. Et je trouvais que c'était délicat pour un moteur. Déposer le moteur. Et je me demandais s'il n'était pas temps pour nous de déposer le moteur. S'il n'était pas temps pour chacun d'entre nous d'arrêter d'être mu par la peur, par la colère. Et de déposer ce moteur avec cet embrayage qui patine, avec ce piston qui s'essouffle. Et de le remettre à Dieu pour qu'il devienne le véritable moteur de la vie. Pour que Dieu puisse donner un véritable sens à notre existence, une véritable raison de vivre. Car on ne peut pas vivre sans raison de vivre. Déposer le moteur pour recevoir la grâce. Amen.